Excellent réveil à tous, voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. À l'écran, il avait autant le sens de la fête que le ton râleur. Le comédien, scénariste et dramaturge Jean-Pierre Bacri est mort d'un cancer à l'âge de 69 ans. Dans ce journal, nous reviendrons sur ses répliques cultes, ses scénarios ciselés, féroces et tendres à la fois avec les personnages. Bacri, indissociable d'Agnès Jaoui depuis Cuisine et Dépendance, Zabou Breitman se souvient.
Et puis à la une encore, Jean Castex promet de passer la surmultipliée dans la campagne de vaccination contre le Covid-19.
Alors que les plus de 75 ans se font vacciner depuis hier, mais les vaccins manquent. Reportage en région parisienne dans un instant.
Un J-1 avant l'investiture de Joe Biden. Le démocrate deviendra demain le 46e président des États-Unis.
Joe Biden qui veut régulariser 11 millions de sans-papiers. Nous partirons à la rencontre des Dreamers, ces rêveurs en français, des jeunes arrivés clandestinement dans leur enfance sur le sol américain, auxquels Donald Trump a voulu retirer un statut protecteur.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour: à quoi sert la charte des principe de l'islam? Je poserai la question à l'islamologue Galeb Bencher.
Dans les rôles qu'il choisissait ou ceux qu'il écrivait avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri pourfendait le conformisme, la tendresse affleurant derrière une voix bougonne. Le scénariste et comédien est mort à l'âge de 69 ans d'un cancer. Il avait incarné des personnages à l'esprit étriqué, ne demandant qu'à découvrir le goût des autres, comme ce chef d'entreprise amoureux de sa prof d'anglais.
The weather is nice.
The weather is nice. J'ai pas faim.
No, I'm not hungry.
What?
I am not hungry.
Me, I'm angry.
On parle de trouble.
Jean-Pierre Bacri dans Le goût des autres en 2000, premier long métrage d'Agnès Jaoui en tant que réalisatrice. Succès public avec 4 millions d'entrées et scénario à deux. Les Jacqueries, comme les surnommait Alain René, pour qui Jaoui, Bacri, avait notamment signé le scénario dont connaît la chanson.
Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28.
Une thèse sur quoi?
Sur rien.
Ah bah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps ça.
Mais non, c'est les chevaliers de l'an 1000 du lac des paysans.
Ah non, Odile, c'est pas du tout ça.
C'est pas du tout ça. Ah bon bah alors vas-y, c'est quoi?
Les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru.
Bah qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit ça.
Non.
Au lac de
Paladru.
Mais excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ce...
Non, personne.
Mais pourquoi t'as choisi ce sujet alors?
Pour faire parler les cons.
Pas comme lui.
Tu sais, moi, je te demandais ça, c'est plus une formalité qu'autre chose.
C'est bien ce que j'avais compris.
Et puis à part ça, il faut être un peu indulgent avec les cons.
Je fais ce que je peux.
Jean-Pierre Bacri, qui avec son éternel complice Agnès Jaoui a marqué un très large public en écrivant des comédies féroces et bienveillantes à la fois, sur le rapport aux autres ou le déterminisme social, dialogue ciselé au théâtre comme au cinéma. Anne Lamotte.
Quand on lit un scénario de Jean-Pierre Bacri et d'Agnès Jaoui, impossible de savoir qui a écrit quoi. C'est fabriqué à quatre mains et on s'est mutuellement contaminé, racontait Bacri. Le tout pour des films collectifs, le goût de la troupe et du dialogue pour la comédienne Zabou Breitman. Au début des années 90, elle fait partie de l'aventure de Cuisine et Dépendance, au théâtre puis au cinéma.
Leur force inouïe, c'est le dialogue.
Tu sais très bien que je suis plus à cheval que toi sur certaines choses.
Mais tu es toujours à cheval. Tu passes ton temps à cheval.
On a des très beaux scénaristes et des très belles choses, mais souvent les dialogues sont pas à la hauteur parfois des scénars. Eux, le dialogue, ils brillaient quoi, leur dialogue. Il y avait un sens du dialogue de dingue.
Un sens du rythme aussi.
Oui, de fou. Et ce sont des acteurs, faut pas l'oublier. Les acteurs, ils savent aussi ce que c'est qu'un dialogue. Quand vous lisez, c'est hallucinant. Vous savez presque déjà comment faut jouer. C'est écrit comme ça.
Ils savent comment les
dire. Ils savent exactement comment il faut les dire. Donc quand on le lit, on sait comment il faut le dire. C'est comme s'il y avait la direction d'acteur dans le dialogue déjà.
C'est bien simple, à chaque fois qu'elle se baisse, il y a un blanc dans la conversation. C'est pas normal.
Le sens du décalage aussi, cher à Woody Allen, souvent cité par Jean-Pierre Bacri. Dans Cuisine et Dépendance, Zabou Breitman et Martine, mère au foyer, en totale remise en question.
Elle disait toujours cette phrase, je voudrais faire des choses pour le monde, sauver le monde, elle voulait sauver le monde. Sauver le monde devant sa bûche glacée. C'est, la situation, elle est merveilleuse.
Et tendre avec le personnage.
Ah bah ouais.
Jamais de méchanceté gratuite dans les scénarios signés Bacri Jaoui.
Et souvent, ils se demandaient, est-ce qu'on n'est pas en train de se moquer? Ils faisaient gaffe, ils en parlaient. Est-ce qu'on se moque pas?
Oui, et bien on est tous dans une situation délicate. La vie est une situation délicate.
Jean-Pierre Bacri est mort à l'âge de 69 ans d'un cancer. Son humanité laconique et sensible continuera de peupler nos vies. Salut Emmanuel Macron. Restons dans le monde de la culture pour un tout autre dossier à présent, avec la mobilisation aujourd'hui partout en France lancée par la CGT Spectacle. Il s'agit de continuer de mettre la pression sur le ministère de la Culture pour demander une date de réouverture des lieux culturels, mais aussi pour avoir des réponses économiques supplémentaires dans ce secteur sinistré par la crise. Stéphane Capron.
Tout le monde s'est focalisé depuis plusieurs semaines sur la date de réouverture, mais on a laissé de côté les questions économiques. Constat amer d'un responsable syndical qui souhaite remettre au cœur des discussions avec Roselyne Bachelot les questions liées à l'emploi et aux droits sociaux. Rien n'est acquis pour l'année blanche de l'intermittence. La prolongation des droits à l'assurance chômage n'a toujours pas été arbitrée. Le gouvernement hésiterait entre une prolongation des allocations et des mesures spécifiques. Les syndicats pointent aussi les difficultés rencontrées par les salariés privés de leurs droits à congé maternité et maladie. Ils vont également demander ce matin à la ministre de la Culture que les compagnies indépendantes de spectacle aient accès au fonds de solidarité permettant de compenser la perte de leur chiffre d'affaires. Et sur la date de réouverture, les professionnels travaillent avec le ministère sur plusieurs scénarios de protocole selon l'évolution de la pandémie. Quant à une réouverture progressive par catégorie, ils sont contre. C'est tous ensemble ou personne, avec des protocoles stricts.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Cette semaine est décisive, nous allons passer la surmultipliée, a promis hier soir le Premier ministre, invité de l'émission C'est à vous sur France 5.
Jean Castex a annoncé pour les deux semaines à venir 430 000 injections supplémentaires dans les EHPAD, où un peu plus de 100 000 résidents et soignants ont été vaccinés jusqu'à présent. Par ailleurs, depuis hier, les plus de 75 ans peuvent se faire vacciner, comme dans le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, en région parisienne. Malgré la mobilisation du réseau des médecins généralistes du secteur et celle du personnel pendant tout le week-end, le centre Fimpré n'a finalement pu accueillir que 50 personnes âgées, faute de vaccin. C'est un reportage de Tara Schlegel.
Simone, à 87 ans, est très heureuse d'avoir obtenu ce créneau grâce à son généraliste.
On a été voir le médecin vendredi et le rendez-vous a été pris vendredi. C'est lui qui nous a téléphoné. C'est bien.
À l'extérieur du vélodrome, l'ambiance est plus tendue. Jean est en colère, il explique à l'accueil qu'il a pourtant tout fait pour décrocher un rendez-vous.
J'ai été sur santé.fr, sur Doctolib, parce que je suis inscrit sur Doctolib. Impossible.
Parce que du coup, toutes les réservations ont été prises très très tôt.
Dans deux mois, là, vous ne pouvez pas m'inscrire.
Pour l'instant, je n'ai pas de visibilité au fait, sur les prochaines doses qu'on va recevoir.
Car le centre ne connaît que les 850 doses de la première semaine. Et il attend d'être sûr avant de donner les prochains rendez-vous. Mais s'il y avait plus de vaccins, assure Jean-Michel Fourgous, qui préside la communauté et agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, on pourrait alors s'occuper de plusieurs centaines de personnes en même temps, au lieu d'avoir 7-8 box comme aujourd'hui.
Si ça s'active très très brutalement, ça passe en drive-in. Et nous, on prend tout le vélodrome, comme on l'avait déjà pour d'autres opérations de tests, par exemple. Donc là, ça ne peut rien avoir. Vous avez une quarantaine de tentes, voilà, et on sait transformer ça en 24 heures.
Le maire de Montigny-le-Bretonneux, Laurent Mercker, rappelle combien les services municipaux se mobilisent.
On accompagne par navette les gens pour venir aussi pour les plus âgés. Donc nous, côté élus, on a fait le travail qu'il fallait, mais aujourd'hui on est avec une réelle difficulté avec les services de l'État dans la communication qu'il peut donner, qui laisse penser aux gens qu'ils peuvent s'inscrire et qu'ils peuvent se faire vacciner, et nous aujourd'hui qui ne pouvons pas répondre à cette demande parce qu'on n'a pas encore reçu les vaccins.
Là, ça c'est vraiment bien.
Tous espèrent donc une montée en gamme le plus vite possible.
Et dans ce contexte sanitaire tendu, le groupe pharmaceutique Sanofi, déjà fragilisé par son retard dans la course au vaccin contre le Covid, fait face aujourd'hui à une grève. Les syndicats demandent de meilleurs salaires et ils s'opposent aux suppressions d'emplois en cours dans le groupe. 600 postes en moins annoncés ce week-end dans la recherche et développement de médicaments pour 200 postes créés. Hier soir, la direction s'est défendue, arguant qu'elle avait déjà prévenu syndicats et salariés il y a plusieurs mois, Thomas Giraudot.
À l'origine de la polémique, un comité de groupe en juin dernier, durant lequel la direction de Sanofi annonce 1700 suppressions de postes en Europe, dont 1 million en France. Pour le président France de Sanofi et la CFDT, les chiffres n'ont pas bougé depuis. Les 600 suppressions et 200 nouveaux emplois dans la recherche et développement révélés ce week-end sont bien compris dans le plan annoncé au mois de juin. Et l'information sort maintenant, car ça y est, les postes voués à disparaître ont été identifiés. Faux, rétorque un délégué central Force Ouvrière. Lui précise que depuis juin, un plan de rupture conventionnelle collective est en cours. Des salariés sont déjà partis ou ont changé de poste. Si on les additionne aux 600 révélés ce week-end, on dépasse le millier annoncé au mois de juin. Une bataille de chiffres donc qui résulte du virage pris par le groupe depuis l'arrivée de Paul Hudson à sa tête. Sanofi veut progressivement abandonner la recherche dans les maladies cardiovasculaires, le diabète, où le français domine pourtant le marché, pour se concentrer sur les maladies rares, cancers et vaccins plus rentables. Un changement de stratégie qui engendre une casse sociale incompréhensible pour les syndicats. Les effectifs en recherche et développement ont ainsi été divisés par deux chez Sanofi depuis 2007, alors que le groupe a déjà bénéficié, selon la CGT, d'au moins 1,5 milliard d'euros de fonds publics au titre du crédit d'impôt recherche.
7h10 sur France Culture. Malgré la pandémie, le président Donald Trump a annoncé hier la prochaine réouverture des frontières américaines aux ressortissants européens de l'espace Schengen, aux Britanniques, Irlandais ainsi qu'aux Brésiliens à compter du 26 janvier. Mais il a immédiatement été contredit par la porte-parole du futur président Joe Biden. Le président démocrate qui sera investi demain à Washington, promettant de revenir sur une politique mise à mal par Donald Trump, le DACA, ce décret protégeant 800 000 personnes, les fameux Dreamers, rêveurs en français. Ces immigrés arrivés enfants aux États-Unis, ils sont près de 200 000 rien qu'en Californie. Et vous avez rencontré l'une d'entre eux, Loïc Piala.
Le mandat de Donald Trump a mis son rêve en suspens. Alors Fabiola, une dreamer arrivée du Chili à 9 ans, compte sur Joe Biden pour finir le travail de son ancien patron.
Puisque Joe Biden était le vice-président de Barack Obama au moment du DACA, nous espérons qu'il va mener à bien le reste de cette politique qui devait nous permettre d'obtenir un statut de résident.
Aujourd'hui, Fabiola vit avec ses parents et son fils dans un petit appartement au sud de Los Angeles. Elle travaille de nuit dans un entrepôt pour payer ses études de radiologie. Mais il y a 3 ans, un autre employeur l'avait licencié, pensant que l'administration Trump ne renouvellerait pas son permis de travail.
J'étais anxieuse. Qu'est-ce qui allait se passer? La Californie est un état sanctuaire. On ne peut pas vous expulser si vous n'avez rien commis d'illégal. J'avais surtout peur de redevenir sans papier.
Un sondage de juin 2020 estime à 74% le nombre d'Américains favorables à un statut permanent pour les Dreamers. La nouvelle administration a l'opinion publique et le Congrès en sa faveur. Mais les turpitudes des dernières années ont rendu Fabiola méfiante.
En politique, tout change du jour au lendemain. On ne sait jamais trop. Pour l'instant, ce sont surtout des promesses.
Les associations de défense des sans-papiers mettent déjà la pression pour une réforme globale de l'immigration au-delà du DACA. Fabiola aimerait que ses parents aussi puissent sortir de l'ombre.
Loïc Piala aux États-Unis pour France Culture. Des pierres et des cocktails Molotov lancés encore cette nuit par des centaines de manifestants à Tunis contre les forces de l'ordre. Elles ont répliqué à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau pour disperser la foule, pour imposer un couvre-feu en cette quatrième nuit d'émeute avec des jeunes qui dénoncent aussi le jour à un climat politique et social pesant. Un tiers des jeunes est au chômage en Tunisie. À suivre dans le journal de 7h30, plus de 25 ans après, l'ancien Premier ministre Édouard Balladur est jugé à partir d'aujourd'hui devant la Cour de justice de la République pour des soupçons de financement occulte de sa campagne présidentielle de 95, l'un des volets tentaculaires de l'affaire Karachi. Le temps de ce mardi 19 janvier, pluvieux au nord, quelques éclaircies au sud. Les températures seront comprises au meilleur de la journée entre 10 et 17 degrés dans le sud du pays, compté de 4 à 12 au nord, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu. Dans une dizaine de minutes, le reportage de la rédaction nous emmènera à la rencontre d'un médecin en première ligne contre la pandémie, alors qu'un hommage aux soignants sera rendu par l'équipe de Joe Biden qui prête serment demain à Washington. Et puis dans quelques instants, à quoi sert la charte des principes de l'islam ?